Daniel Chouinard, qui est président de la Fédération des employés préhospitaliers du Québec, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On dit que le métier d'ambulancier a changé beaucoup depuis les années 70-80.
Ouais.
Votre capacité à intervenir auprès de du patient dans les dernières années s'est beaucoup améliorée. Parlez-moi un peu justement d'exemples d'actes médicaux que vous faites, là, que vous ne faisiez pas auparavant.
Oui, bien, essentiellement, le métier a évolué beaucoup dans le sens au niveau clinique. Maintenant, les ambulanciers sont habilités à faire de la défibrillation, évidemment, depuis déjà quelques années, qu'il y a des moniteurs défibrillateurs à bord des véhicules. Mais ce moniteur défibrillateur-là nous sert aussi également, depuis quelques années, là, depuis 5-6 ans, à faire des électrocardiogrammes, c'est-à-dire d'identifier quand le patient a une douleur thoracique, si effectivement c'est un cas d'infarctus ou un potentiel d'infarctus. Et à ce moment-là, d'administrer aspirine et nitroglycérine pour soulager la douleur et également pour donner une chance au patient d'être thrombolisé là, à temps à l'hôpital ou dans un centre de service. Également, bon, il y a l'intubation endotrachéale, mais au combitube. Ça veut dire c'est un tube qu'on insère. On va aller fermer les voies respiratoires pour les rendre perméables, pour pas qu'il y ait de sécrétion qui aille dans les poumons, etc., pour être capable de ventiler adéquatement les patients. Évidemment, tous les soins qu'on amène, même au niveau des médicaments, c'est un peu des soins temporaires, qu'on peut dire. C'est pour stabiliser l'état du patient, pour le transporter vers un centre receveur. Mais évidemment, ce n'est pas des soins qu'on donne qui peuvent s'échelonner sur une longue période, là.
Dans notre cas ici, on parle beaucoup des urgences non hospitalières, les CLSC, qui sont à peu près à une centaine de kilomètres chez nous, là, du centre hospitalier. Vous connaissez un peu la région. De toute façon, je suis convaincu que vous vous êtes fait expliquer un peu le dossier. Il y a Murdochville et Grande-Vallée. Est-ce qu'on peut dire que votre nouvelle capacité à intervenir auprès de la clientèle, ça se regroupe avec des actions médicales, genre qui se font dans les milieux non hospitaliers, là, d'urgences non hospitalières comme les CLSC?
Oui, bien, vous savez, comme je disais tout à l'heure, notre rôle premier au niveau des services ambulanciers, c'est justement d'aller chercher la personne, de stabiliser son état pour la transporter. Évidemment, avec l'évolution des appareils, les médicaments qu'on peut donner, bientôt, il va y avoir des médicaments contre la douleur également qu'on va pouvoir donner pour l'épilepsie, des choses comme ça. Ça fait en sorte qu'effectivement, on peut peut-être faire un plus long trajet pour se rendre à un hôpital, disons, plus évolué, un centre primaire ou un centre secondaire, un plus gros hôpital, en fait. Mais évidemment, ça dépend toujours des cas. Il y a des cas où on va devoir tout de même, si on a la chance d'avoir un poste avec un médecin sur place, avec une infirmière, de pouvoir avoir des médicaments autres que ceux qu'on possède. Parce qu'évidemment, nous, c'est très limité. On a des médicaments, oui, mais c'est très, très, très limité. Pour des cas précis, on va quand même, je pense, avoir besoin encore pour l'instant, de certains de ces postes-là.
Dans votre manière de faire, parlez-moi un peu de cas, là, justement, qui ont changé, que vous n'avez plus besoin de vous rendre, genre, dans ces petits CLSC-là, puis que vous pouvez transporter le patient sur une distance là, de 60 ou 70-100 kilomètres, je pense, à un accident routier dans le chemin de Murdochville ou près de Grande-Vallée.
Évidemment, les cas où on pourrait peut-être faire... pas faire de détour, c'est-à-dire se rendre dans un centre hospitalier directement. C'est plus au niveau des cas, je dirais, de difficultés respiratoires. Je prends par exemple les traitements qu'on donne avec du Ventolin pour les cas d'asthme ou de bronchospasme, des choses comme ça. À ce moment-là, eux, on les soulage quand même rapidement. On a un effet quasi immédiat. Le patient reprend du mieux, sa saturation augmente, le patient devient stable. À ce moment-là, on peut transporter directement vers un centre hospitalier. Là où on a plus de problématiques, c'est justement les cas de traumatologie. Un cas de traumatologie, évidemment, si on peut avoir la chance d'arrêter un endroit où on va pouvoir avoir une perfusion, c'est-à-dire un soluté qui soit installé, parce que nous, on n'a pas cette formation-là présentement.
En ce moment, là, lorsque vous intervenez, évidemment, sur un accident quelconque ou un patient, quelle est la règle? Est-ce que vous devez vous rendre automatiquement au point de service le plus près?
Ça va dépendre de l'état. Quand on prend un patient en traumatologie, en accident de la route, on va lui placer une cote, c'est-à-dire on appelle ça notre échelle de traumatologie québécoise, qui a été remodelée là, il y a environ 2 ans. Et puis selon la cote que le patient va avoir, selon son état de respiration, son pouls, son état de conscience et tout, ça va établir ses blessures évidemment, ça va établir sa cote. Puis à ce moment-là, ça va nous dire s'il y a besoin d'un centre primaire ou secondaire ou tertiaire. À ce moment-là, ben, on va communiquer cette échelle-là à la centrale de communication santé. Puis, ils vont nous affecter le CH qui va être approprié pour l'état de ce patient-là. Donc, ça peut faire en sorte qu'effectivement, on ait besoin d'aller dans un centre tertiaire pour stabiliser quelque chose avant de se rendre à l'autre. Ou ils vont nous dire carrément de se rendre directement au plus gros centre hospitalier plus près.
Donc, c'est pas vous qui prenez la décision non plus, là?
Pas toujours. C'est surtout en traumatologie, mais pour le reste, pour les cas de difficultés respiratoires, comme je disais tout à l'heure, ou un autre cas médical, si c'est pas la traumato, c'est particulier. Comme je disais tantôt, c'est des choses qui pressent, c'est des choses qu'il faut faire rapidement. Mm-hmm. Si la personne a besoin d'une perfusion, ben ça prend quelqu'un qui mette la perfusion.
Okay.
Puis ça, ben le plus facile, c'est d'arrêter à l'endroit le plus proche. Mais évidemment, je pense que c'est un dossier qui va nécessiter peut-être justement, avec les services de l'hospitalité d'urgence au niveau du ministère, se penche sur ce dossier-là et évalue, justement, les choses qui pourraient être évitées ou les choses qui pourraient aller, les cas qui pourraient être transportés directement. Vous savez, ils le font assez régulièrement. Ils l'ont fait pour les corridors de traumatologie, qu'on appelle. Il y a certains hôpitaux, maintenant, à laquelle les ambulanciers n'iront plus. Ils vont directement à un plus gros centre hospitalier, justement parce que le patient est bien stabilisé à bord. Mais pour la région de la Gaspésie, pour ces cas comme ça, ou les cas éloignés, de régions plus éloignées, où il y a de grandes distances à parcourir, je pense que c'est un dossier vraiment... Il va falloir que le ministère se penche là-dessus.
Donc, il y a lieu pour vous d'avoir une réflexion sur les services offerts dans ces petites urgences.
Oui, tout à fait. Je suis convaincu qu'il y a certains cas qui pourraient être inclus là-dedans.
Donc, des cas qu'on transporterait directement dans le centre hospitalier, mettons, à Gaspé, au lieu d'aller dans ces petits centres.
Oui, rapidement, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est des cas de difficultés respiratoires peut-être. Mm-hmm. Les cas de diabète, les diabétiques là, qui font des hypoglycémies, qu'on peut donner du glucagon pour ramener leur taux de sucre là, à un niveau acceptable. À ce moment-là, les patients sont stabilisés. Ça peut être évité, on pourrait éviter à ce moment-là de faire un arrêt là, qui serait peut-être pas nécessaire.
Merci beaucoup pour ces détails, Daniel Chouinard. Merci bien. Ça nous éclaire un petit peu sur le rôle des ambulanciers. Vous êtes le président de la Fédération des employés préhospitaliers du Québec. Merci.
Merci à vous.